Salut et bienvenue sur Ta Face B, le podcast qui nous fait découvrir chaque semaine la face cachée d'entrepreneurs et d'exécutifs dans le monde du commerce de détail et des technologies. Recommandations, passions et histoires personnelles, ils partagent tout ce qui les anime à côté de leur job. Alors très bonne écoute de ce nouvel épisode et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ta Face B. J'ai le plaisir d'accueillir Geoffrey aujourd'hui. Salut Geoffrey.
Salut.
Alors Geoffrey, merci de ta participation à ce podcast Ta Face B. Comme tu le sais, tu vas pouvoir nous en apprendre plus sur Ta Face B, tout ce qui t'anime, tes passions, des histoires personnelles et autres. Et avant de démarrer, je vais te laisser commencer par Ta Face A, donc ta compagnie aujourd'hui et ton rôle dans cette compagnie en une trentaine de secondes.
Ouais. Merci déjà pour l'invitation. Donc moi c'est Geoffrey. Je suis ma face A. Je suis vice-président marketing, sciences de données et connaissances consommateurs à La Presse, qui est un média d'information à Montréal. Donc je m'occupe de toute la partie acquisition, engagement, monétisation des lecteurs de La Presse. Et puis j'ai aussi les fonctions où je m'occupe de toute la partie données. Tant les supports des unités d'affaires à l'interne que qu'est-ce qu'on peut faire avec la donnée pour la personnalisation d'expérience, l'augmentation des revenus publicitaires et la recherche consommateur. Donc, c'est
super.
Ça.
Bah, en tant que lecteur de La Presse, écoute, j'ai hâte de voir la suite de tout ça. Parfait, on va basculer sur Ta Face B, Geoffrey, maintenant. On va démarrer par le sport. Quel sport tu pratiques aujourd'hui?
Aujourd'hui, je pratique encore le tennis un peu. J'ai grandi dans le tennis. J'ai joué de l'âge de 5 ans jusqu'à probablement 18, 19 ans, assez sérieusement en France. Donc, j'ai grandi dans le tennis, j'ai joué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand j'étais jeune, ça occupait, si ce n'était l'école, je faisais à peu près que ça. Donc c'est ça, c'est mon sport historique que je pratique encore un peu ici. Et puis, un sport que j'ai découvert juste avant de quitter la France pour venir ici en 2013, c'était le golf.
Okay.
Et j'essaye désespérément de progresser. Voilà, c'est un travail de longue haleine. Mais j'ai un ami à moi qui en joue et dit le golf, c'est une super balade gâchée par une petite balle blanche. Vraiment, c'est comme ça que je me sens plus souvent que moi.
Ok, bah, y a un segment après sur ta to-do list, peut-être que ouais, on aura le golf qui reviendra dans les à venir. Super, maintenant on va faire du sport et même du golf, hein. Faut manger quand même bien. C'est quoi un peu le plat que tu souhaites partager à nos auditeurs, auditrices, un plat préféré?
Préféré, ouais. Quand en y réfléchissant, c'était les lasagnes de ma mère.
Ouais.
Et c'est très relié au tennis en fait.
Ouais.
Et quand il y avait ce vieux, ça a évolué maintenant, je pense, mais les pratiques de nutrition voulaient historiquement que avant de faire du sport, fallait manger des pâtes.
Ouais,
je
ouais.
Ça a grandi là-dedans, mais moi c'était un peu ça l'adage que tout le monde utilisait. Et quasiment, tu pouvais pas gagner un match si tu mangeais pas de pâtes avant.
Ouais.
Et c'est ça. Et ma mère a toujours fait à manger pour moi quand j'étais plus jeune, avant les matchs, avant les entraînements, après les entraînements, bref, et elle faisait une lasagne. J'ai aucune idée ce que c'est la recette, mais c'est dans mon souvenir, c'était les meilleures choses qui existaient, quoi. C'est vraiment. Et d'ailleurs, en pensant à notre sujet, quand on s'est rencontrés la première fois, ma mère m'a demandé qu'est-ce que t'es, cadeau de Noël, qu'est-ce que tu veux. Je lui ai dit,
ouais.
En fait, j'aimerais que tu me fasses un petit bouquin avec toutes les recettes que tu faisais. Quand j'étais plus jeune, incluant, donc il va y avoir les lasagnes, donc je vais finalement avoir la recette. Donc c'est une bonne nouvelle.
Bon, bah écoute, tu vas bientôt pouvoir nous inviter pour déguster la lasagne de ta mère que tu auras préparée toi-même.
Ah, c'est opportuniste, mais ok, c'est bon.
Je note. Parfait. On va basculer maintenant sur le cinéma, un film culte que tu voudrais partager avec nos auditeurs et nos auditrices.
Il y en a deux, j'arrivais
ouais.
pas à les départager. Le premier, c'était Good Will Hunting. Donc
oui.
C'est... Si je veux pas spoiler rien, mais c'est un film avec Robin Williams et Matt Damon, entre autres, et Ben Affleck. Ça m'a marqué quand j'étais plus jeune. L'histoire du développement de ce gars-là, l'histoire du traumatisme. C'était la première fois que moi j'étais exposé à qu'est-ce que, enfin, la relation même entre un psychologue et un patient. Ouais. C'est vraiment, bon, je suppose que c'est pas représentatif de toutes les relations psychologue-patient, mais bref, c'est l'évolution du personnage, ce qu'il a fait. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment fascinant. Donc ça, c'était il y a vraiment longtemps. Ouais. Là aussi, il y a longtemps, mais qui est relié à un truc que les gens savent peut-être pas, donc vraiment définitivement ma phase B. Au départ, après, quand j'ai découvert que je serais pas joueur de tennis professionnel, ouais. Je m'étais dit que j'allais devenir pilote d'avion de chasse. Et autour de cette période-là, je suis tombé sur le film Les Chevaliers du Ciel, qui est un film sur l'armée de l'air française à toute fin pratique. Et j'ai été fasciné par ça. Et je te dirais que j'ai poncé ce film vraiment plusieurs fois entre 2017 et 2019, disons. Okay. Donc voilà, je vous invite à le regarder. C'est un petit film français. Ça casse pas des briques, mais c'est très cool.
Peut-on le qualifier de Top Gun à la française ou...
Ouais, alors pour le coup, à la française, beaucoup beaucoup moins américanisé, mais non, c'est ça. Je vous laisse le découvrir. C'est, je pense, que ça doit être 90 minutes, quelque chose comme ça. Et c'est bien fait. C'est avec Benoît Magimel et comment il s'appelle? Ah, je me rappelle plus de son nom. Bref.
Clovis Cornillac. Non, je suis pas joué un Clovis Cornillac.
Clovis Cornillac, exactement. Okay. Avec une BO, vraiment une bande originale incroyable. You're the conversation, I'm the game, c'est une des chansons du truc, moi je le trouve, et une super pièce musicale. Bref, voilà.
Super, bah écoute, noté comme film. Les séries TV, ou la série TV que tu veux partager?
Ouais, deux, ouais. Encore une fois. Dur,
Ouais.
Choisir a été compliqué. Une des séries, là c'était, j'étais vraiment plus jeune, j'avais je pense 14-15 ans, je suis au moment où j'ai une passion pour essayer de développer mon anglais, j'ai commencé à regarder des séries en anglais, sous-titré évidemment français au départ, et il y avait une série qui était cool, ça s'appelait, que je trouvais cool, qui s'appelait Friday Night Lights, et c'était une série sur une équipe dans une ville qui n'existe pas en fait, qui s'appelle Dillon au Texas, aux États-Unis, avec ce que j'ai découvert là-dedans, c'est la fascination aux États-Unis, spécialement au Texas, de ce qu'ils appelaient le high school football, donc le football américain des jeunes du lycée, et c'est vraiment une institution, presque une religion. J'étais fasciné par les États-Unis à l'époque, le sport américain, tout ça. Donc je suis tombé en amoureux de cette série que j'ai regardée. Je pense qu'il y avait déjà 4-5 saisons qui existaient quand j'ai commencé à la regarder, donc j'ai dû bouffer les 4-5 saisons très vite. En plus, c'était à l'époque où entre ça et Faire tes devoirs, c'était plutôt cool de regarder ça. Donc voilà, ça c'était la première série. Et la deuxième, découverte plus tard, série, je crois, de HBO, qui s'appelle The Newsroom. Rien à voir, c'était avant que je rejoigne la presse. C'est une série que j'ai trouvée qui est de Aaron Sorkin, que j'aime beaucoup. Et voilà, il fait une série à mi-chemin entre quelle est la réalité de faire un journal de nouvelles et la responsabilité qui vient avec, et bref, tout un tas de choses comme ça, et créé sur des événements réels, des événements qui sont produits. Je pense que le premier épisode, c'est sur BP Horizon, là, tu sais, la grande catastrophe pétrolière qui a eu lieu en Louisiane. Et après, il y a l'autre moitié du truc, c'est un peu à l'eau de rose, des relations amoureuses entre deux, trois personnes. Ça, c'est peut-être un peu moins le truc, mais par contre, c'est des personnages incroyables avec des répliques incroyables. Et un des acteurs principaux de ce truc-là, et tu vois, là, il faut que je m'en rappelle, et j'ai oublié son nom. On a l'habitude de le voir dans des rôles hyper loufoques. Et dans celui-là, il est beaucoup plus sérieux.
Ok, c'est noté. Écoute, The Newsroom et Friday Night Lights, que tu recommandes. Au niveau de la musique, un titre, une chanson culte?
Ça, c'est... peut-être pas apprécier le clin d'œil. Ma femme, Charlotte, m'a fait découvrir une face cachée, une face B d'une chanson que j'avais, qui était passée complètement, à laquelle j'étais passé complètement à côté. Ouais. C'était Mr. Brightside. Et en fait, c'est un jour pour rencontrer Charlotte. Charlotte, c'est quelqu'un de très calme, très posé, très, ouais. Je sais pas, moi, très, très proper. Un peu à la, elle est la face A et je suis la face B, où j'ai tendance à être perçu comme très dynamique, très intense, très tout ça. Et je pense que ça faisait un mois qu'on était ensemble. Et là, cette chanson-là arrive en aléatoire sur une playlist Spotify. Et là, elle se met à chanter ça. Et je l'avais jamais vu aussi intense sur un truc. Bref, les trois premières phrases, je peux même pas le reproduire pour vous. C'est le genre de truc qui se vit, ça se raconte pas. Mais voilà, donc depuis, c'est dans ma tête devenu une chanson culte parce que quand elle passe, j'imagine Charlotte me la faire. Voilà.
Mr. Brightside,
Mr. Brightside. Je sais même pas quel est l'artiste. Pour te dire à quel point je suis passé à côté de cette chanson.
On ira mettre ça sous le descriptif de l'épisode sans problème. Au niveau des lectures, qu'est-ce que tu recommandes, Geoffrey?
Moi, je sais pas pour toi, mais moi j'ai pris goût à la lecture vraiment tard dans ma vie. Ok, je pense que le premier bouquin que j'ai lu, qui était pas en fait qui était pas obligatoire à l'école, c'est je devais avoir 20 ans, un truc comme ça. Okay. J'étais du genre là aussi, ma mère serait pas fière, mais j'étais du genre à faire acheter à ma mère les profils de lecture, tu sais, quand t'étais à l'école, là, donc le résumé du résumé. Et bref, et donc plus tard, j'ai découvert des lectures, et dans les lectures qui m'intéressent, c'est des trucs que les gens trouvent chiants. Donc, ouais. je lis vraiment que du non-fiction, comment en français, je sais plus comment ça se dit, mais je lis pas de fiction, je lis le reste. Donc, je lis pas de romans policiers, je lis pas de trucs fantastiques. Par contre, je lis des trucs un peu reliés au comment fonctionne le cerveau, le paradoxe du choix dans la consommation des gens, ouais. Des trucs sur la macroéconomie, la géopolitique, bref, vraiment des trucs que les gens trouvent chiants. Ouais. Mais il y en a un auquel j'ai pensé que j'ai mentionné, c'était Thinking Fast and Slow.
Ouais.
Et en français, c'est Système 1, Système 2, je pense, si je me rappelle bien. Et celui-là, je l'ai vraiment beaucoup recommandé à ma famille, notamment. Et donc dans Thinking Fast and Slow, ce qui me fascine, c'est tout ce que j'aime. C'est je pense 500 pages ou un truc comme ça, ou 400 pages de recherches empiriques qui ont été faites pour essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau humain, certains comportements qu'on a naturellement, mais sans se les expliquer. Ils prennent du temps à traverser ces exemples-là. Et la version du risque, et bref, plein de concepts que je trouve assez éclairants sur le fonctionnement de notre cerveau. Et pour moi, je me suis dit, oh waouh, ok, j'avais jamais remarqué ça, j'avais jamais pensé à ça. Même à certains moments, il y a des résultats d'expérimentation où je me dis, mais non, c'est pas possible. Là, ils essayent de me faire passer, mais c'est ma nature un peu. Toujours à douter.
Rationnel,
mais...
ouais.
Ouais, qui dit, mais non, 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 là, ils essaient de me faire passer, je sais pas, il y a quelque chose qui était mal calibré. Mais bref, donc je vous le recommande, c'est pas une lecture évidente, ok, ouais. Ça ne mange pas comme un roman, tout ça, mais si, ça vaut la peine d'aller au bout, voilà.
Ok, donc faut pas s'endormir au bout de chaque page, sinon ça va être impossible de continuer.
Même, c'est pas grave, non, même si tu t'endors tous les soirs à chaque page, il faut recommencer, monsieur, il faut pas lâcher.
On repart.
Il faut aller au bout.
Super, bah écoute, je pense qu'on va rester dans le thinking avec le podcast que tu écoutes et que tu recommandes aussi à nos auditeurs.
Ouais, j'ai essayé de penser à un podcast en français. Ouais. La scène podcast française, je trouve, se développe, preuve en est, hein, avec ce que tu fais. Mais j'ai essayé de penser à un podcast que j'écoute régulièrement. Je l'écoute pendant que je cours, en passant, parce que c'est très bien, c'est Thinkerview, qui est donc une chaîne internet qui a commencé il y a au moins 10 ans, mais que moi j'ai découvert, je pense, quelques mois avant la pandémie.
Okay.
Et le format est cool. Alors, en plus, comme je vous dis, j'ai découvert il y a quelques années, donc j'étais déjà dans le milieu des médias et tout. Je trouve leur proposition intéressante dans le format, qui est de dire, vous n'avez pas les questions d'avance, vous n'avez pas assez, et on a le temps de parler des sujets. Donc, les épisodes peuvent durer, je pense qu'il y en a un que j'ai écouté il y a un ou deux mois, il durait 3h30. Donc c'est vraiment, ça peut être, ou 3h, je pense que c'était 3h. Ça peut vraiment être long, et en fait, ils n'arrêtent pas. C'est l'animateur a un style, ok, je pense qu'il essaye vraiment d'aller chercher le fond des choses, il essaye d'aller chercher creuser dans des sujets, essayer de te pousser dans tes retranchements sur tes positions, et il accueille de tout le monde, tous les bords politiques, tous les courants de pensée, sociaux, etc. Donc vraiment, il est dans une position où son expression préférée, je pense, c'est je vais me faire l'avocat du diable. Et c'est ça. Et tu vois, il y a des fois les podcasts, les sujets me fascinent et je suis accroché au truc. Il y a des fois, c'est un peu plus long, mais comme pour Thinking Fast and Slow, j'essaye d'aller au bout. Ouais. Et tu vois, là, je suis sur un épisode que j'ai commencé ce matin en allant courir et je trouve ça terrible. Terrible. Je trouve que la personne qui parle et s'écoute parler, c'est. Mais bon, ça me permet aussi de me confronter à des opinions complètement différentes et je trouve ça cool. Voilà. Okay. Je trouve le but d'un balado et ça me passe le temps quand je m'en vais courir 30-40 minutes. C'est très bien.
Think of you. Parfait, c'est noté. On va basculer maintenant, Geoffrey, sur tes hobbies à côté de ta façade, puis de tes sports et autres. Tu voulais nous parler d'un hobby en particulier?
Là pour le coup, tu vois, c'était peut-être une de tes seules questions qui était au pluriel et j'ai répondu avec un. Donc j'ai découvert une petite passion pour la rénovation, voilà. Ouais. Mon père vous dira que j'ai pas touché un marteau de toute ma jeunesse et que c'était vraiment un talent que j'ai choisi de cacher. Quand on a acheté notre première maison dans Notre-Dame-de-Grâce avec Charlotte, on a acheté un truc qui était complètement à refaire. Parce que à l'époque, on n'avait pas les moyens non plus d'acheter un truc qui était tout refait et tout ça. Et je m'étais toujours dit, écoute, je vais peut-être acheter vraiment une dent. Il va falloir le refaire au complet. Et on a fait ça. Et en fait, j'ai trouvé du plaisir. Ça a fait fonctionner une toute autre partie de mon cerveau. Et je trouve ça cool et il y a plein de trucs à apprendre et ma plus grande découverte dans ce sujet-là, c'était la profondeur de YouTube.
Sur les tutoriaux, ouais.
Ah mais c'est fascinant le nombre de personnes qui font des vidéos de 3-5 minutes pour te montrer un truc. Écoute, je pense pas avoir déjà été capable de trouver sur ce sujet-là quelque chose où il y avait pas un tutorial avec un do it yourself, quelqu'un qui décide de te montrer comment gagner du temps dans la découpe des plafonds quand tu repeins, comment t'es censé poser une base de douche, enfin bref, des trucs qui sont vraiment que je considérais à l'époque technique et qui sont qui sont fascinants avec dans la limite de ce que le code du bâtiment nous permet au Québec. Là j'ai pu faire certaines choses, il y a d'autres choses que j'ai pas pu faire, mais vraiment j'ai appris plein de trucs et je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais bien le travail manuel à tel point que là on vient d'acheter un truc et je suis en train de considérer faire d'autres choses et ça m'excite complètement.
Puis pour ta défense vis-à-vis de ton père, il n'y avait pas YouTube à l'époque quand tu étais jeune, donc maintenant il y a YouTube et tu peux...
Ah bon, alors, petit aparté, si papa t'écoute ça un jour, mon père, c'est plutôt de la catégorie « j'ai besoin d'un apprenti » et de sur lequel je peux crier, tu vois, dire « fais ça ». Non, je t'ai dit pas ça, je t'ai dit...
Motivation zéro, ouais, ok.
C'est pas hyper engageant, enfin, mais aujourd'hui, on travaille super bien ensemble en rénovation, donc ça va
super. On va aller voyager avec toi, Geoffrey. Je pense que tu voulais nous parler d'un voyage mémorable qui a eu lieu en Italie en 2018.
Rome, ouais. Rome 2018 avec Charlotte. Première fois qu'on voyageait ensemble parce qu'on s'est rencontrés en 2017. Et super découverte, sachant qu'en tant que Français, j'avais déjà été en Italie, jamais été à Rome. Okay. Donc ça a appris que j'aille vivre à Montréal pour me dire tiens, Rome, ça pourrait être cool. on est allé à Rome, super voyage, des trucs hyper typiques, une ville. Enfin, tu marches dans un musée, les gens disent ça sur Paris, mais pour moi, c'est vraiment ça, Rome. Donc tu marches dans un musée, on a fait un truc. Touristes, on a loué un Vespa, on a fait le tour de la ville en Vespa.
Excellent.
Bref, on a fait je ne sais plus combien elles sont là, je pense qu'il y a 5-7 collines, je ne me rappelle plus le chiffre, ou 9. Bon, 5-7 ou 9. Donc on s'est fait ça en Vespa, c'était top. Tu t'arrêtes dans un coin, tu achètes des pâtes, tu les manges au bord d'une fontaine. C'est un genre de truc de film. Ça c'est dans les choses qui m'ont marqué. C'était vraiment un super souvenir.
Rome en 2018. Parfait. On va basculer maintenant dans un moment, on va remonter un peu plus dans le passé, un moment de vie marquant. C'était ton université, c'est ça? En février 2009.
Ouais. Mon université, j'ai commencé l'université en octobre ou novembre, je ne sais plus, 2008. Ouais. Et j'ai commencé l'université un peu comme j'avais fini le lycée, tu vois. C'est-à-dire sur une espèce de... de lâcher de rampe complet sans se soucier de quoi la vie allait être faite. Donc moi j'ai étudié dans une école d'informatique en France, là c'est un genre d'école post-bac, et après le premier trimestre où j'avais fait en gros j'avais beaucoup joué à FIFA avec mon voisin de classe. C'était à peu près ça le qu'on faisait à l'école. Je me suis dit, mais attends, je me rappelle, ça m'a marqué. Dans 4 ans et demi, tu es sur le marché du travail. Va falloir que tu sais, il y a plus d'école, il y a plus rien. Et là, mais j'ai été pris d'une angoisse de me dire, ah oui, mais attends, enfin, 4 ans et demi, c'est bientôt, quoi. J'avais jamais réalisé que la fin, c'était, alors tu me diras, pas très brillant, hein, mais la fin, c'était bientôt, quoi. Et
Ouais, fini la belle vie, quoi.
le début d'autre chose, mais la fin de cette période de vie. Et voilà. Et donc, février 2009, le tournant dans ma carrière, commencer à acheter des livres techniques pour apprendre, et je suis devenu un peu, je suis devenu obsédé, un peu comme dans tout dans la vie, là. Je suis devenu obsédé par essayer d'apprendre le plus de choses technologiques que je pouvais, maximiser tout ce que mon école pouvait m'offrir comme opportunité de stage, de trucs, bref.
Ouais.
Donc voilà, ça a vraiment été un moment marquant.
Marquant, et puis qui fait ce que tu es aujourd'hui, et puis ton rôle aujourd'hui, notamment chez la presse. Et bon, on va revenir dans le présent, puis on va même aller dans le futur. On a parlé un peu du golf, où apparemment il faut que tu pratiques encore un petit peu, si on regarde ta to-do list dans les prochaines
Le
années.
problème, c'est pas pratiquer, là, je te dis, hein.
Ouais. Faut y aller encore plus. Si on regarde ta to-do list dans les prochaines années, il y a quoi? Tu mets quoi dessus là? T'as envie de faire quoi?
Il y a plein de choses. Ça en est étourdissant, si je reprends le terme de ma mère de cette semaine, mais je suis le genre de personne à lancer beaucoup de projets en même temps,
Ouais.
dès qu'il y a un peu de place pour un nouveau truc. Je sais pas si j'ai une peur de l'ennui, ou si c'est le cas, c'est vraiment pas conscient, mais si je le tourne du côté positif, je suis excité par plein de trucs. Il y a
Ouais.
plein de trucs qui me fascinent, qui m'intéressent, que je veux développer, apprendre, tout ça. Donc dès qu'il y a un peu de place, je rajoute quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il y a sur ma to-do list pour les prochaines années? Ben, il n'y a plus de place. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il y aura dedans, mais c'est quasiment sûr qu'il n'y aura plus de place.
Plein de choses. Ok. Super. Et bah pour finir, en fait, Geoffrey, on va finir par une petite anecdote que pas ou peu de personnes connaissent sur toi. Qu'est-ce que tu veux partager à nos auditeurs, auditrices?
Je sais pas si c'est une anecdote ou si c'est fun. Les gens ont l'habitude de me voir dans un contexte de travail, donc
Face rare, ouais.
avec des pulls et des chemises et des choses comme ça. Peut-être que le seul truc qu'ils savent pas, c'est que je suis un grand fan des hoodies, ou des trucs à capuche, on appellerait ça en France, là. Et quand je suis chez moi, les amis, vous allez me retrouver à 99% du temps en sweat à capuche. C'est pas vrai que ce sera toujours des sweatpants ou habillé en mou en dessous, mais c'est quasiment certain que je vais avoir un sweat à capuche. Je sais pas pourquoi, je trouve ça excessivement confortable. Et voilà. Et donc c'est un peu le truc que les gens ne savent pas du tout sur moi.
Surtout avec l'hiver qui arrive bientôt là, donc
Ah
c'est
ouais, en
vraiment
plus au
le
Québec, là, j'ai une collection. En tout cas, je t'en reparlerai, mais c'est
ouais.
vraiment, c'est fascinant. Je les prête pas, par contre. Donc,
Tu les
autant je
prépares,
peux
ok.
t'inviter à manger les lasagnes de ma mère, autant je
Il
fais
faut que je vienne en hoodie. Si je
C'est
viens chez
un...
toi, il faut que je vienne en hoodie. Ouais.
On discrimine pas. Tant que moi, j'ai le
Parce
droit
que
d'en porter un, il n'y a pas de problème.
t'es très open hoodies. Ok, c'est bon. Merci beaucoup, Geoffrey, en tout cas, d'avoir partagé ta phase B. On en a appris beaucoup sur toi. Donc, merci, Geoffrey.
Merci à toi, c'était super cool.
Et puis à tous nos auditeurs et auditrices, rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Ta Phase B. Je vous souhaite une très bonne semaine d'ici là.